Nathalie Dessay, je ne vais pas vous demander de nous dire si vous intéressiez au Parti Socialiste, à son sort. À la voix des hommes politiques, c'est quelque chose que vous entendez de manière différente parce que vous avez une oreille qui n'est pas la même que la nôtre.
Oui, en tout cas, en parlant
vous,
de voix.
Vous avez un chat.
Oui, voilà. Moi, je suis très très sensible aux voix et je disais l'autre jour... D'ailleurs, que je ne pourrais pas être amie avec quelqu'un qui a une voix qui me déplaît.
C'est vrai ?
Ça serait impossible. Autant le physique... enfin, peu importe le physique, parce que les gens peuvent dégager plein de choses. Autant si la voix me hérisse le poil, je pars en courant.
Et alors, qu'est-ce qu'une voix qui vous plaît ?
Une voix un petit peu comme ça, par exemple. Ou alors, quelqu'un qui parlerait comme ça.
Ah,
je sais pas, non, ça c'est pas possible.
Faites bien les imitations de voix. On va entendre en tout cas votre voix, la voix que vous avez dans votre dernier album, un autre extrait de Between Yesterday and Tomorrow. Et il s'agit de savoir cette fois-ci d'où vient le vent, qui est une question qu'on peut retrouver, Frédéric Saïs, dans les chroniques politiques aussi. On se pose souvent la question.
Where does wind go? Nobody seems to know. What makes the sun come up and the moon go down? Who fills the clouds with rain? Why is my head so full of questions that nobody can explain? Why do some people die before they get old? Where do they go when they die? What makes ice so cold and fire so hot? No one can tell me why. Where does wind come from? Where does wind go? Where does wind come from? Where does wind go? Nobody seems to know. Tell me, is there an...
Alors d'où vient le vent, Nathalie Dessay?
Ah bah justement, moi j'en sais rien. Mais ce petit enfant pose tout un tas de questions et c'est marrant parce que ça me rappelle vraiment tous les enfants qu'on connaît de cet âge-là, de 5-6 ans, qui disent « Et pourquoi ceci ? Et pourquoi cela ? Et où c'est que ça se passe ?» Et on ne sait absolument pas répondre et ça nous énerve.
Bon, il faut rappeler aux auditeurs que cet album est le fruit d'une nouvelle collaboration avec Michel Legrand. Cela fait quelques années que vous travaillez à ses côtés et que vous avez décidé, un peu à la manière d'autres artistes, de retrouver un côté naturel dans votre art, autrement dit dans votre voix, et de désapprendre un peu ce que vous aviez appris.
Réapprendre autre chose en tout cas, et de manière aussi à être plus proche des mots, parce que à l'opéra, c'est pas la préoccupation principale. D'ailleurs, tout le monde dit tout le temps, à l'opéra on comprend rien, heureusement qu'il y a des surtitres. Or là, l'idée c'est quand même de dire des poèmes, d'être proche du texte et d'être plus dans l'expression des mots directement.
Ce qui veut dire aussi que vous avez un amour véritable de la chanson populaire. Vous avez d'ailleurs joué avec votre mari Laurent Naouri un spectacle au Théâtre des Champs-Élysées, c'était le 10 novembre dernier, où vous avez chanté des chansons populaires.
Oui, enfin on a pris... L'idée, c'était de faire le lien entre la musique française dite savante. Mmh. Alors, ça pouvait aller de Rameau à Poulenc en passant par Fauré ou Bizet. Et puis de voir quel était le lien entre cette musique-là et la chanson française telle qu'on l'aime et qu'on la connaît. Et du coup, il s'agissait pour nous de transformer un peu tout ça dans une sorte de jazz, mais pas vraiment non plus, pour montrer qu'il y avait vraiment un lien dans tout ça.
Quel est le lien justement entre Trenet et Poulenc par exemple?
C'est-à-dire que tout ça c'est de la chanson, c'est-à-dire c'est de la musique populaire en fait, et que même quand on chante du Rameau, il y a une mélodie magnifique, il y a un rythme qui induisent des choses qui nous rappellent la chanson telle qu'on la connaît, en fait.
Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez commencer par chanter parce que vous souhaitiez monter sur scène, mais que vous souhaitiez au départ être comédienne. Quand vous étiez petite, chez vous, on écoutait beaucoup de musique, on écoutait de la chanson.
Oui, on écoutait de la chanson, on écoutait Jean Ferrat, on écoutait Brel, Reggiani, je me souviens, on avait tous ces vinyles. On écoutait un peu de musique classique et moi je faisais de la danse, donc forcément Chopin et Tchaïkovski faisaient partie du décor. Mais voilà.
Et rétrospectivement, justement, ces chanteurs qui étaient des chanteurs très populaires, comme Ferrat, par exemple, ou Brel, qu'est-ce qu'ils vous ont appris? Est-ce que ce sont eux qui vous ont donné un goût pour la chanson?
Oui, certainement. En tout cas, je me souviens de cet album de Ferrat qui chante Aragon. Ça, c'est un album qui a été vraiment marquant, que je connaissais par cœur à une époque. Je trouvais que cette alliance de la poésie d'Aragon avec ce qu'on avait fait Ferrat était vraiment magnifique. Pareil pour Brel. Brel est l'interprète immense qu'on connaît, avec ses textes parfois très bizarres. Enfin, pour une petite fille, c'est parfois bizarre.
Vous pourriez en chanter ?
Non. En tout cas, Brel, sûrement pas. Parce que ça, c'est... Je trouve qu'on peut. C'est très difficile de se l'approprier. Et lui l'a tellement marqué de son empreinte que ça me paraît compliqué.
Et les poèmes d'Aragon chantés
ça,
par.
Oui, je crois.
Lorsque l'on va à l'opéra aujourd'hui, on se dit, Nathalie Dessay, que justement, on est très loin de la chanson populaire. Pas tellement pour ce que l'on entend, même si, bien entendu, il y a une différence importante entre les deux utilisations de la voix, mais aussi par le public. C'est-à-dire que l'opéra a du mal, c'est ma sensation, à être un art populaire.
Oui, alors que ce n'était pas le cas autrefois. Je veux dire, même en Italie, par exemple, ou même dans le sud de la France, on allait à l'opéra en famille. Il y avait des places pas très chères dans ce qu'on appelle le poulailler. Et souvent, les familles mettaient l'opéra le dimanche après-midi. C'est devenu un art, disons, élitiste. Et je me dis qu'avec l'apparition du micro, les choses ont changé, effectivement.
Est-ce qu'il y aurait une manière de lutter contre ça, de faire en sorte que cet art-là soit un art peut-être plus ouvert, qui permette...
Mais ce n'est pas nous qui ne sommes pas ouverts, hein. C'est que les gens ont changé de goût, tout simplement. Avec la culture mainstream et la chanson populaire, les gens n'ont plus envie d'entendre d'autres gens hurler sans micro. C'était très drôle parce que l'autre jour, mon mari était dans un taxi et expliquait à un chauffeur... qui visiblement n'était jamais allé à l'opéra, qu'est-ce que c'était l'opéra? Et je disais, alors vous voyez, ben, on chante sans micro. Et l'autre, sa réaction immédiate a été, mais pourquoi? Et c'est là toute la question. C'est vrai qu'avec la technique d'aujourd'hui, on se demande, mais pourquoi faut-il chanter sans micro? C'est fou.
Et pourquoi alors faut-il chanter?
Parce que c'est un patrimoine, c'est quelque chose qui mérite d'exister. Maintenant, faut-il que ce soit populaire? Je suis pas sûre, moi. C'est comme le jazz. Moi, j'adore le jazz, et pourtant, voilà, c'est quelque chose qui ne concerne et qui n'intéresse qu'une toute petite partie de la population. Et en fait, ce qu'on demande, nous, c'est que ça puisse continuer à exister, c'est tout. On n'est pas forcément à exiger que ça,
ça
intéresse tout le monde. Non.
Mais néanmoins, lorsqu'on entend des chanteurs, des chanteuses, lorsqu'on voit et lorsque l'on entend d'anciennes chanteuses, je pense à Pia Farletti, on voit que les techniques de chant ont changé, on voit aujourd'hui qu'il y a énormément d'émissions de télé, par exemple, qui sont construites autour de la voix, ce qui veut dire qu'elle reste populaire et qu'il y a des modes dans la voix. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie Dessay?
Moi, je continue à aimer les chanteurs qui savent chanter, donc... Bon, après, aujourd'hui, il y a des voix qui me marquent ou qui m'ont marqué. Une fille comme Amy Winehouse a été très importante, mais une fille comme Adele aussi. Après, on peut plus ou moins aimer le répertoire, mais ce sont quand même des voix qui nous touchent directement. Voilà, qu'est-ce que je pourrais
c'était
dire
C'était une technique pour Amy Winehouse ou pour Adele, il y avait une technique...
Il y a une technique, bien sûr. Ce sont des gens qui savent chanter, qui ont appris à chanter.
Appris à chanter avec
au-delà du fait d'avoir une vraie voix et un timbre qui vous touche.
On va écouter quelqu'un qui a une vraie voix et dont on parle beaucoup en ce moment parce qu'il est malade. Johnny Hallyday. Le voici, Johnny.
Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne, je ne fais que passer. Dans la nuit, je file, tout seul de ville en ville. Je ne suis qu'une pierre qui roule toujours. J'ai bien la fortune et plus, et mon nom partout dans les rues. Pourtant, je cherche tout simplement l'amour. Plus d'une fille souvent me guette quand s'éteignent les projecteurs.
La voix de Johnny Hallyday, Nathalie Dessay, vous en pensez quoi?
Ça, c'est une belle voix. C'est une très très belle voix qui aurait pu faire aussi un super chanteur d'opéra s'il avait travaillé, s'il avait aimé ce répertoire.
C'était il y a 33 ans. On entend d'ailleurs la manière dont une voix change, dont
ouais,
une voix
c'est
vieillit.
Mouvant, ça aussi, je trouve. Mais c'est toujours une aussi belle voix aujourd'hui. Hein. C'est ça qui est très très étonnant avec Johnny, c'est que il a tout ce qu'il a traversé, toute cette vie de concert, ça a bien sûr changé sa voix, mais il a toujours une belle voix qui nous touche au plus profond.
Chez les chanteurs d'opéra également, on entend la manière dont une voix change au fil des années, Nathalie.
Oui, le problème c'est que nous on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'être usé. Ça marche pas à l'opéra.
Bon, mais il n'y a pas que le droit dans la vie, il y a aussi ce que la vie fait. Et là, est-ce que les voix changent?
Ah, bien sûr, bien sûr. Très souvent, elles s'aggravent, mais je connais une collègue qui est passée de mezzo à soprano. Donc ça arrive aussi.
Sans l'avoir cherchée?
Non, simplement en travaillant, en développant ses dons et ses facultés. Petit à petit, la voix a réussi à s'allonger, à s'assouplir.
Parce que voilà. Vous disiez tout à l'heure que toutes les voix s'adaptent, mais vos voix à vous, chanteurs d'opéra, s'adaptent quand même de manière plus facile que les voix des simples mortels qui n'arrivent pas
vous
à
maîtriser
leur...
Vous voulez dire s'adaptent à quoi? La vieillesse?
Non, s'adaptent au chant que vous chantez, qu'on n'arriverait pas à chanter d'ailleurs.
Oui, mais oui et non, parce que on est des athlètes de haut niveau et le corps vieillit et nous trahit assez rapidement. Donc non, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît.
Vous vouliez devenir comédienne et vous êtes devenue comédienne, Nathalie Dessay, puisque vous jouez en ce moment dans La Légende d'une vie, une pièce de Stefan Zweig. La prochaine date d'ailleurs sera le 9 décembre à Neuilly. Pourquoi avoir décidé de jouer dans une pièce de Zweig?
Parce que c'est une belle pièce, parce que c'est avec Macha Merrill, Bernard Allan, Gaël Giraudot, Valentine Gallet. Et parce que c'est une mise en scène de Christophe Lidon, c'est aussi des questions de rencontre en fait. Et j'aime Zweig, je ne connaissais pas cette pièce et le rôle est magnifique.
Alors juste pour la présenter en quelques mots, Nathalie Dessay, il est question d'un artiste mort qui ressemble beaucoup à Mahler.
À Mahler, je dirais, oui. Oui, d'ailleurs, il y a un article de Stefan Zweig sur Mahler qu'il écrit en 1915, donc 4 ans après la disparition de Mahler. Où il fait une espèce d'agiographie de cet immense chef compositeur. Mmh. Et si on remplace le nom de Mahler par Karl Franck, qui est donc le héros mort de la pièce que je joue, c'est extrêmement troublant comme ça s'adapte. Donc moi je joue le rôle de sa veuve, à cet homme qui est un immense artiste cette veuve entretient un peu la légende de cet homme. Et il va y avoir une femme qui va arriver pour bouleverser un peu tout ça et révéler un secret.
Et le portrait d'un artiste avec une volonté de maintenir cet artiste dans sa légende. Il y a beaucoup effectivement de compositeurs, notamment la légende de Mahler avec le côté à la fois nostalgique, Mittel Europa, et puis le destin tragique, c'est quelque chose qui vous touche?
Ah bien sûr, moi, un de mes livres de chevet c'est quand même Le Monde d'hier, donc c'est pas tout à fait innocent que que cette pièce m'ait été présentée à ce moment de ma vie.
Et lorsque vous jouez, quel est le répertoire différent, les manières différentes que vous utilisez par rapport à l'opéra où il s'agit aussi de jouer, Nathalie
Dacier? Ça n'a rien à voir, comme je dis toujours. À l'opéra, je me souviens que j'avais l'habitude de mettre ma cuirasse pour aller à la guerre. C'est vraiment de cet ordre.
Pourquoi ?
Entrer en scène pour chanter, pour moi, c'était la difficulté. Et c'était une difficulté physique, athlétique. Mmh. Oui, j'allais faire la guerre contre moi-même, hein, probablement. Au théâtre, c'est tout l'inverse. Au théâtre, non seulement il faut enlever la cuirasse, mmh, mais il faut enlever aussi le t-shirt et il faut enlever aussi la peau. Pour recevoir plutôt que projeter.
Mais pourtant, on a l'impression qu'au théâtre, il faut être aussi dans le contrôle en permanence par rapport à ce qu'on fait.
Oui, mais ça n'empêche pas le contrôle. Mais il faut... avoir des antennes pour percevoir tout ce qui va arriver au moment T et pour pouvoir réagir. Il s'agit plus de réagir que d'agir.
Alors qu'à l'opéra, vous tentiez d'être sourde à ce qui se passait.
Ah oui, au contraire, à l'opéra, il faut toujours être en top forme, il faut toujours gagner la bataille. Mm-hmm. Parce qu'il s'agit d'une bataille.
C'est plus épuisant.
Oui, c'est plus épuisant physiquement. Je dirais qu'au théâtre, c'est plus épuisant psychiquement.
À l'opéra, j'ai lu que vous refusiez d'aller au-delà de la 70e représentation.
Oui, enfin, c'est pas refuser, mais disons qu'au bout de la 70e représentation d'un même rôle, je m'ennuyais. Donc j'avais envie de passer à autre chose. Ce qui est tout l'inverse au théâtre. Parce que, alors je dis pas que je voudrais jouer 1000 fois le même rôle, mais plusieurs dizaines de fois, voire une centaine ou 200 fois, ça permet d'explorer toutes les petites nuances du rôle, et qui sont infinies, beaucoup plus infinies qu'à l'opéra, parce que à l'opéra on n'est pas maître du temps.
Mais malgré tout, on se dit que l'opéra aussi est d'une grande richesse, qu'il y a la réunion de différentes formes d'art, ce que vous n'avez pas dans le théâtre lorsque vous jouez Zweig, par exemple.
Oui, sauf que, encore une fois, la musique décide de beaucoup de choses. Donc notre marge de manœuvre est bien plus réduite.
On va entendre un autre morceau d'opéra, Nathalie Dessay. On va vous entendre dans Ariane Anaxos.
Kindskopf! Merkt auf, wir spielen mitten im Stück. Ariane auf Naxos. Das Stück geht so. Eine Prinzessin ist von ihrem Bräutigam sitzen gelassen und ihr nächster Verehrer ist wo erst nicht angekommen. Die Bühne stellt eine wüste Insel dar. Wir sind eine muntere Gesellschaft, die sich zufällig auf dieser wüsten Insel befindet. Ihr richtet euch nach mir und sobald sich eine Gelegenheit bietet, treten wir auf und mischen uns in die Hand.
C'est vous.
Oui, avec quelqu'un d'autre. Hein.
J'ai lu que vous aviez presque...
Avec Sophie, je crois, non ? C'est avec Sophie Coche, ça ? Je me souviens plus.
J'ai lu que vous aviez presque honte de posséder une jolie voix.
Je sais pas, mais ça peut faire partie d'une autre, d'un plus grand ensemble là, parce que tel quel là, je sais pas.
C'est-à-dire que ça n'avait pas été facile pour vous d'assumer votre image de cantatrice, par exemple.
Non, je crois que c'était lié à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait d'avoir une voix qui correspondait pas tout à fait à mon caractère. Je pense que c'est plus ça.
Et là, lorsque vous entendez Ariane Anaxos et que vous voyez la différence, les différents répertoires que vous utilisez, Nathalie Dessay, entre celui que vous convoquez pour enregistrer des compositions de Michel Legrand, celles que vous utilisiez pour l'opéra.
La question, c'est quoi? Pardon.
Eh bien, lorsque vous voyez les différents répertoires
ah oui,
que vous utilisez.
Moi, ce qui m'amuse, en fait, c'est d'être diverse, c'est d'être autre. Et le fait de pouvoir me servir d'une voix qui n'a rien à voir avec celle que j'utilisais à l'opéra, c'est aussi, dans ma démarche de comédienne, quelque chose de très important. Par exemple, j'ai fait aussi du doublage de dessins animés. J'adore ça, parce que je peux utiliser plein de voix différentes, ou quand je raconte des histoires pour les enfants.
Des talents d'imitatrice, on les a entendus
oui,
tout à l'heure.
Oui, pas forcément d'imitatrice, mais en tout cas, je peux vraiment. Je dis toujours que je suis une athlète vocale, en fait. Je peux faire beaucoup, beaucoup de choses avec ma voix, plus de choses que ce qu'on croit, et ce que moi-même je crois.
Et le fait d'utiliser un micro, vous en parliez tout à l'heure.
Oui, ça change tout. Quel bonheur.
Pourquoi? Quel bonheur.
Parce qu'on n'a pas besoin de hurler. C'est ça qui est génial.
Mais on vous a appris pourtant
à hurler, à passer un orchestre,
à couvrir un orchestre,
oui.
Et ça c'est quelque chose qui finit
par lasser. C'est bien, mais c'est pas la seule chose qu'on peut faire, Dieu merci.
Est-ce que ça veut dire que vous avez décidé par exemple que vous ne voudriez plus remonter sur scène pour chanter?
Ah non, l'opéra c'est fini, hein. C'est totalement fini. Ça n'empêche pas que je continue à faire des récitals de Lieder et mélodies. J'aime beaucoup la poésie et la poésie allemande en particulier. Donc, bien sûr, pourquoi ne pas continuer à faire en duo avec Philippe Cassard des merveilleux concerts à travers le monde. Mais l'opéra, c'est terminé.
Et vous y allez en tant que spectatrice?
Non, assez peu. Mais ça peut m'arriver, hein, et avec beaucoup de plaisir, hein, je dois le dire.
Et lorsque vous allez, ou lorsque vous écoutez de la musique dite populaire, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous aviez un certain amour pour la musique populaire.
Le jazz aussi. Particulièrement, oui.
Et là, qu'est-ce que vous écoutez?
J'écoute de tout, j'écoute aussi bien Bill Evans que Cécile McLaurin-Salvant, que Yun Sun Na, que Baptiste Trottignon, ou Guillaume de Chassis, je sais pas moi.
L'improvisation, est-ce que c'est quelque chose qui vous manque, puisque finalement vous parlez beaucoup du carcan dans lequel vous avez dû être, alors vous parliez carrément d'une cuirasse pour l'opéra, quelque chose de plus souple pour le théâtre, pour la chanson de toute façon les choses sont, j'imagine, assez contraintes, est-ce que l'improvisation c'est quelque chose que vous auriez
c'est quelque
envie
chose qui m'intéresse, en tout cas. Et j'ai commencé à apprendre quand j'ai fait du Handel, puisque donc les airs sont toujours A, B, A', et dans la partie A', normalement, on fait des variations. Et donc, j'ai commencé à improviser un petit peu là. Et quand je chante des chansons, il peut m'arriver d'improviser aussi de temps en temps. Alors, je sais le faire sur les balades, où j'arrive à entendre par anticipation, mais quand ça va plus vite, c'est plus compliqué. Mais ça s'apprend.
Nathalie Dessay, on va écouter un dernier extrait de cet album que vous enregistrez, mais auparavant vous êtes fixé un certain nombre de défis que vous avez remplis, être une cantatrice, monter sur scène, chanter des chansons. Est-ce qu'il y a d'autres défis que vous aimeriez relever?
Je sais pas, déjà jouer va me prendre les prochaines 30 années, donc 30 années, il n'y a pas de S. Écriture inclusive n'indique pas qu'on met des S là où il n'y en a pas. Donc voilà.
En dehors de Zweig, est-ce que vous avez d'autres pièces ou d'autres auteurs de théâtre que vous aimeriez interpréter?
Un jour j'aimerais jouer Feydeau, un jour j'aimerais jouer Marivaux. Ouais. Et puis le théâtre russe aussi m'intéresse beaucoup.
On écoute un dernier extrait de cet album « Between Yesterday and Tomorrow ».
There is question and the answer. There's the silence of the sea. Between the cradle and the grave, there is the someone that is me. Between yesterday and tomorrow, there is more, there is more than a day. There's every dawn you've ever seen, and every wind you've ever heard. There's every hand you've ever touched, all that ever was, all that could have been, all that should have been.
C'est vous hein, qui chantez là.
Eh oui,
c'est.
Eh oui. Hein, qui l'eût cru.
Mais nous, on
même
le
moi,
croit.
Je ne me reconnais pas.
Mais nous, on le croit. Bon, vous avez dit que vous feriez une voix de sorcière. Vous la ferez tout à l'heure, juste après, par exemple, les chroniques de d'Aurélien Bélanger.
Ça induit une voix de sorcière, les chroniques.
Je
de,
ne sais pas,
d'Aurélien.
Aurélien. Est-ce que vous pensez qu'une voix de sorcière pourrait venir clore votre chronique? On le verra tout à l'heure.
On va voir.